gens des nations vont être greffés sur l'Église. Alors là, il y a une certaine discontinuité, parce qu'apparaît une équation nouvelle, nation plus juif égale 1. Dans l'Église, c'est l'équation de l'Église, ça. Juif plus nation égale 1. Alors, on entre dans cette équation, et c'est l'apôtre sur le mer. Mais, je reviens, il y a trois apôtres, parmi les 13 ou parmi les 12 plus 1, qui ont joué un rôle spécifique dans le temps apostolique. Premier apôtre, c'est l'apôtre Saint-Pierre. Pierre domine toute la première partie du livre des Actes. Il domine toute la première partie des Actes. D'ailleurs, c'est à lui que Jésus a dit « Paix mon Église, paix mes brebis, paix mes agneaux hein, », c'est ce qui nous est indiqué à la fin de l'Évangile. Alors, il y a Pierre, c'est la figure dominante d'un premier moment du temps apostolique. Il est d'ailleurs à Jérusalem au départ, et en tout cas, il est à Jérusalem jusqu'à la décapitation de Jacques, le frère de Jean. Ce récit de la décapitation de Jacques, de l'apôtre Jacques, frère de Jean, nous est raconté au chapitre 12 du livre des Actes. Et alors, Pierre, après avoir conduit l'église mère de Jérusalem, en tout cas jusqu'à la lapidation de Jacques, et on peut même penser peut-être seulement jusqu'à la mort du premier martyr, qui est Étienne, hein, c'est quand même, bien qu'apôtre des circoncis, celui qui a été le premier à baptiser des incirconcis, dont le centurion de la cohorte dite italienne, Cornelius, Corneille. En 49, Pierre prend part au concile de Jérusalem avec d'autres apôtres, dont Paul et des anciens, et c'est sous la présidence de Jacques, qui avait succédé à Pierre à la tête de l'église mère de Jérusalem. Et nous, vers une date imprécise, peut-être vers 60, mais nous n'en savons rien, c'est très discuté, il faut lire les travaux d'Oscar Kuhlmann à ce sujet. Pierre se rend à Rome, d'où il écrivit au moins l'une des deux lettres de lui que nous avons dans le Nouveau Testament. Et comme Jésus le lui avait annoncé en Jean 21, il mourut martyr, crucifié la tête en bas en 67 durant la persécution ordonnée par Néron après l'incendie de Rome. Alors je vous rappelle la date de l'incendie de Rome, 64. À partir de l'incendie de Rome, d'ailleurs, s'ouvre la dernière septaine d'années de l'ère ancienne, hein, de la fin totale de l'ère ancienne. Alors il est une date à retenir. 64, incendie de Rome. 67, mort de Pierre, martyr à Rome. Alors c'est là, d'abord, au début du livre des Actes, j'allais dire, j'exagère un peu, il y en a que pour Pierre, ce serait exagéré de dire ça, mais je veux dire, il est sûr que la grande figure du premier temps, dans le temps apostolique, c'est l'apôtre Pierre. Ensuite, arrive l'apôtre Paul. Lui, il couvre le livre des Actes, on peut dire, du chapitre 13 jusqu'à la fin du livre des Actes. Il y a 28 chapitres, si je me souviens bien, dans le livre des Actes. Eh bien, c'est Paul qui couvre toute cette période, qui se finira en même temps que celle de Pierre, puisque si Pierre fut crucifié la tête en bas en 67, la même année 67, l'apôtre Paul, lui, fut décapité. Pourquoi il fut décapité? C'est parce que le supplice réservé aux citoyens romains condamnés à mort, c'était la décapitation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que les Romains qui étaient décapités. Enfin, disons qu'on comprend que Pierre ait été crucifié et que Paul ait été décapité. D'ailleurs, le livre des Actes s'achève pratiquement et doit dater à peu près de l'année 62. En tout cas, le livre des Actes a été écrit avant l'incendie de Rome par Néron en 64 et a été écrit a fortiori avant la mort de Pierre et de Paul à laquelle aucune allusion n'est faite. Donc, si vous voulez, vous avez. D'ailleurs, c'est l'idée, c'est l'opinion de Robinson dans son livre sur la datation du Nouveau Testament. C'est aussi à quoi arrive Benham dans son livre sur le Nouveau Testament. Il parle pas seulement des dates des évangiles synoptiques, mais aussi des dates d'autres écrits, dont le livre des Actes. Donc, on peut dire, le livre des Actes s'arrête en 62, a dû être écrit vers 62, donc 2 ans avant l'incendie de Rome, et 5 ans avant la crucifixion de Pierre et la décapitation de Paul. Donc, là aussi, on voit très bien toute la place qu'occupe Paul dans ce second temps des derniers temps. Dans le premier temps des derniers temps, c'est Pierre, dans le second temps des derniers temps, c'est Paul, la grande figure, et dans le troisième temps, c'est-à-dire à partir de la mort de Pierre et de Paul, mais même sans doute un peu avant, à partir de 62, avant l'incendie de Rome, jusqu'en 70, l'apôtre qui domine la scène, ça va être Saint Jean. Et avec l'Apocalypse, qui est un livre, là j'ai vu, là, il y avait le bouquin de Chilton là, sur la table, il faut lire le livre de Chilton pour bien saisir la chose. Donc se sont succédés, d'une certaine manière. Attention, je ne dis pas comme autorité sur l'Église, je ne dis pas que Pierre a été le conducteur de l'Église, puis ensuite Paul le directeur, conducteur de l'Église, puis ensuite Jean, ce n'est pas ça du tout que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que les figures apostoliques dominantes ont été successivement, ça ne veut pas dire dominante au sens hiérarchique, au sens... Non, je dirais, les figures qui dominent, dans le livre des Actes des Apôtres, c'est très net, c'est Pierre d'abord, puis c'est Paul ensuite, et je dirais, après la mort des apôtres Pierre et Paul, c'est l'apôtre Jean qui va dominer la situation, et d'où aussi l'importance du livre de l'Apocalypse à cette époque. Pendant ce temps, il y a eu une situation, pendant, c'est d'ailleurs jusqu'en 64, jusqu'à l'incendie de Rome par Néron, c'est-à-dire pendant les années 30 à 64, la persécution a été chose des Juifs. Les persécuteurs de l'Église ont été des Juifs. Tandis qu'à partir de 64, c'est-à-dire dans la partie sur laquelle la figure de l'apôtre Jean domine, alors là, ça bascule. Pourquoi ? C'est parce que on va avoir l'apparition de la bête. La bête, Néron, au chiffre 666. Et la persécution va devenir une persécution par l'État romain, par l'empereur de Rome. Et pratiquement, ça se poursuivra, non pas d'une façon continue, mais ça va durer pratiquement jusqu'à l'édit de Constantin le Grand, édit connu sous le nom d'édit de Mélan, et qui date de 313. Donc, voilà, il va s'ouvrir une période, mais déjà dans le temps apostolique, il va y avoir donc ces 7 dernières années, cette dernière semaine du temps, ou cette dernière septaine plutôt, du temps apostolique, durant lesquelles la persécution passe des Juifs à Rome. Et d'ailleurs, là aussi, on pourrait dire que c'est très curieux, mais si vous voulez, la ville centrale de l'Église, jusque vers 60-62, c'est Jérusalem. Tandis que la ville qui va devenir la ville centrale, ça va être Rome. On a comparé quelquefois le passage de Paul de Jérusalem à Rome comme parallèle au mouvement de l'Énéide de Virgile, où il y a aussi un mouvement analogue. Mais si vous voulez, il y a un passage. Le livre des Actes, si vous voulez, nous montre très bien. Dans le livre des Actes, on part de Jérusalem et on aboutit à Rome. Voilà. Et c'est une transposition formidable, puisqu'on passe de la capitale des Juifs, de la capitale d'Israël, à la capitale de l'Empire à la capitale des nations de l'œïcouménée, c'est-à-dire des nations de l'Empire romain. Hein, on passe. Mais ça a été volontaire. Ça a été volontaire de la part des apôtres, et en particulier de l'apôtre Paul. Paul a voulu que l'Évangile soit planté dans la capitale de l'Empire, parce que il ne s'agissait plus d'une alliance avec le peuple d'Israël seulement, mais d'une alliance de grâce qui passait à toutes les nations. Alors, juif contre juif, au départ. Les juifs contre juifs, puisque au tout départ, dans les années qui ont immédiatement suivi l'année 30, les chrétiens sont juifs. L'église chrétienne est juive. Et même l'église chrétienne continue à pratiquer la loi juive sur bien des points. Par exemple, il y a encore des chrétiens qui sont circoncis. Les chrétiens se rendent le jour du sabbat au temple. Les sacrificateurs qui sont devenus chrétiens, parce que le livre des Actes mentionne qu'un bon nombre de sacrificateurs devinrent chrétiens, ont continué leur office au temple. On est dans une situation où l'ère ancienne continue et où cependant l'ère nouvelle a commencé. Les deux ères de l'Alliance, l'ancienne et la nouvelle, se sont chevauchées au temps apostolique, ou tout au moins pendant les premières années du temps apostolique. Et puis alors, évidemment, avec l'événement de 70, ce sera terminé. Mais je dirais, quand on lit d'ailleurs le Nouveau Testament, on s'aperçoit qu'il est encore question du temple comme du lieu saint, il est encore question de Jérusalem comme de la ville sainte. On est encore dans une situation où l'Église est juive, à 95%, l'Église est juive au départ. Voilà, alors j'ai terminé. Vous avez noté 10 minutes sur vos montres pendant lesquelles vous allez faire ce que vous voulez, et puis nous nous retrouvons pour l'entrée.
Oui, j'aimerais bien revenir un peu sur Matthieu 24 d'hier. Je l'ai relu ce matin,
oui.
Et bon, j'étais intéressé par votre interprétation, mais il y a une idée qui m'est venue. Les tremblements de terre, les guerres, les faux messies, les faux prophètes, on a l'impression qu'il y en a une quantité quand même assez importante. Et je pose la question, est-ce que 30, 40 ans des dernières moitiés de 70 ans, est-ce que c'est une période suffisante pour qu'il y ait eu autant de famines, de tremblements de terre, de guerres, de bruits de guerre, de faux messies, de faux prophètes, etc. Comme il semble qu'il y en a beaucoup dans Matthieu 24.
Voilà. Alors, je ne vais pas répondre à votre question. Pourquoi ? Parce que c'est ce que je vais voir en commençant mon cours cet après-midi. Vous voyez, je suis au point où, voilà, l'accomplissement des 7 signes annonciateurs. 1, faux Christ. 2, guerre et bruit de guerre. 3, enfin, bon, autrement dit, alors, je répondrai cet après-midi à votre question. Alors, c'est pas que j'esquive votre question, mais c'est prévu que... Il va y avoir, au fond, l'accomplissement de la prophétie du Christ.
Moi, j'ai une question sur, d'une manière générale, parce que j'ai lu Chilton en entier, là, et il y a quelque chose, bon, qui...
Qu'est-ce que vous avez lu, là ?
Par le Darius Story.
Ah, vous l'avez fini.
Ah, moi, je l'ai lu, oui, puis j'ai un peu feuilleté Apocalypse, mais il reprend beaucoup de choses. Ce que, quand, à la fin du livre, j'étais un peu, enfin, désorienté, par rapport à ce qui reste dans la Bible, nous informant sur la fin, je veux dire la fin. Et bon, dans les thèses qu'il a fait à la fin, dans le résumé, bon, il y a quelques petites choses. Mais sur le changement, on a l'impression que finalement, cette fin, c'est simplement la continuité de maintenant. Et je veux dire, il n'y aura pas de réel changement, et que finalement, cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux ne sont pas si nouveaux que ça, etc. Et ça, bon, je voulais un peu, c'est un peu une impression, hein, c'est pas du tout théologique. Quoi, mais, donc, je voulais un peu votre éclairage, ou je sais pas, par rapport à ce genre de choses. Est-ce que vous avez ressenti la même chose au début, ou est-ce qu'il y a des choses qui concernent la fin auxquelles on ne fait jamais attention? Ça se peut aussi.
Alors, je vais aussi aborder cette question dans la suite du cours, mais je voudrais tout de suite vous donner quand même une réflexion. Je pense qu'il y a deux eschatologies distinctes dans le Nouveau Testament. Il y a une première eschatologie, c'est celle de Matthieu 24, 1 à 35, et des passages parallèles dans Marc 13 et dans Luc 21. Hein, il y a une première eschatologie, qui est l'eschatologie de la fin d'une ère, de la fin d'un monde. Et puis alors, il y a une seconde eschatologie sur laquelle le Nouveau Testament, effectivement, ne nous dit pas grand-chose. Au fond, si vous prenez les œuvres dogmatiques, je pense à Bavinck, je pense à Hodge, je pense, si vous voulez, les dogmatiques réformées, finalement, ne nous disent pas grand-chose sur la grande eschatologie ou l'eschatologie de la fin. Hein? Qu'est-ce que nous savons? Nous avons des points. Retour en gloire de Jésus-Christ. Résurrection des morts. Jugement dernier. Transfiguration universelle. Ou rétablissement de toutes choses, comme vous voulez. Voilà. Mais on ne nous détaille rien là-dessus. Je veux dire, finalement, moi je suis toujours frappé de voir combien l'eschatologie ultime. Et alors, qu'est-ce qui est développé très souvent? Ce sera l'eschatologie personnelle, à savoir notre mort. Vous voyez, la question de notre mort. On posera la question aussi de l'intervalle entre la mort et la résurrection. Voilà. Mais Dieu semble vraiment ne pas avoir révélé beaucoup. Et il nous donne des points forts, ceux que je viens d'indiquer, entre autres, mais il ne nous a pas dit grand-chose. Et alors, ce qui me frappe, c'est que, alors qu'il y a une accumulation de signes à discerner en ce qui concerne la première eschatologie, il ne nous est donné aucun signe de la seconde eschatologie, puisque la seconde eschatologie arrivera voilà. On ne pourra pas dire, ah ça y est, puisqu'il y a aussi, tandis que dès la première eschatologie, il faudra qu'on dise, ça y est, la preuve, c'est que les chrétiens qui auront bien entendu les prophéties de Jésus sur la fin de l'ère ancienne, prendront leur disposition pour quitter Jérusalem à temps, pour ne pas être surpris. Et alors les signes s'accumulant, comme je vais essayer de le montrer cet après-midi, les signes s'accumulant, il va arriver un moment où ils diront, ça y est, alors il y a eu, alors on discute, savoir, il y a une tradition historique qui veut que les chrétiens de Jérusalem aient fui à Péla. Et là, ça se trouvait en Transjordanie. Il fallait aller au-delà du Jourdain. Alors, ça a été discuté. Il y a eu dans des revues récentes des articles pour contester ou pour au contraire appuyer la réalité historique de la fuite à Péla. Mais le point pour moi n'est pas Péla ou pas Péla. Le point pour moi, c'est que les chrétiens ont été suffisamment avertis par Jésus dans par le discours de Matthieu 24, par exemple, pour quitter Jérusalem à temps. Maintenant, il y en a peut-être quelques-uns qui n'ont pas voulu écouter, qui se seront laissés surprendre. Voilà. Et c'est vrai que... alors, voyez la grande différence, c'est que dans un cas, vous avez des signes avertisseurs. Tandis que pour l'eschatologie de la grande fin, de la fin avec un F majuscule, vous n'avez pas de signes avertisseurs.
Alors, toujours c'est à propos de cette affaire de signes-là, donc parce qu'au début des actes, juste avant l'ascension, donc ils sont tous réunis et demandent à Jésus, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Et il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. » Alors, est-ce que là, il fait allusion justement à cette eschatologie d'après, ou est-ce qu'il fait allusion à l'eschatologie, disons plus ou moins directe, compte tenu du fait qu'en fait en Matthieu 24, au verset 33, donc qui est dans la partie eschatologie juste à venir en 70, Jésus dit, de même vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que, alors dans nos Bibles, on a le Fils de l'homme, entre parenthèses, est proche à la porte. Or, si la parenthèse est bonne, ça ne tient pas vraiment debout. Je veux dire, parce qu'en 70, au niveau du comportement du Christ, il ne s'est pas passé quelque chose de particulier, à ma connaissance.
Bonne question, mais je ne réponds pas tout de suite, parce que c'est aussi... cet après-midi que je vais toucher le point, parce qu'il y a les sept signes annonciateurs, mais il va y avoir après le signe du Fils de l'homme dans le ciel.
Ça, c'est Daniel 7, 13.
Quoi?
C'est ce que dont Chilton parle dans Daniel 7, 13.
Voilà,
le fils,
c'est ça. Le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Et alors, je crois, si vous voulez, que c'est à cela. C'est de ça dont on peut parler vraiment d'un signe donné par le Christ qui est au ciel, le Christ céleste, va donner le signe décisif qu'est précisément, à mon sens, la destruction du temple. Alors, il y a sept signes annonciateurs, et en plus, il y a le signe du Fils de l'homme dans le ciel, mais avant que ne parvienne, que n'arrive la réalisation du signe du Fils de l'homme dans le ciel, alors c'est intéressant parce que le texte grec, n'est-ce pas, a exactement cet ordre des mots, hein, le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Tandis que d'aucuns ont fait une chose, ils disent le signe dans le ciel du Fils de l'homme. Vous me direz que c'est pas. Mais quand même, c'est curieux. Pourquoi vouloir tout à coup accorder dans le ciel à signe, alors que dans le texte grec, dans le ciel et avec le Fils de l'homme? Alors, nous en parlerons. C'est pour ça que je vous demande à tous les deux là, d'attendre la réponse là.
Mais pour acte, vous le traiterez aussi tout à l'heure.
Non, non, je vois pas où est le problème là pour acte, parce que c'est acte 1.
Oui, c'est ça.
Oui. Je vois pas. Parce que les disciples demandent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Or, de toute façon, il n'est pas question de rétablir le royaume de Dieu pour Israël. Je veux dire, c'est une question des disciples, là.
Oui, tout à fait. Mais la réponse de...
Et alors, Jésus répond, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Je ne crois pas non plus qu'il faille là vouloir parler de la première ou de la seconde eschatologie. Je crois que là, Jésus dit, vous savez, il y a des temps et des moments que Dieu a fixés. Hein, et c'est pas à nous de choses. Mais alors, l'important pour moi, la pointe, c'est vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins, Jérusalem, dans toute la Judée, dans Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Je pense que je ne vois pas là où est abordée par Jésus la question de l'une ou de l'autre des eschatologies. Je ne pense pas. Jésus parle de l'immédiat. Il dit, ce qui va se passer, en tout cas ce que je peux vous dire qui va se passer, c'est que dans quelques jours, c'est juste avant l'ascension, donc pratiquement dans une dizaine de jours, hein, vous allez recevoir l'Esprit Saint et vous serez mes témoins. Alors là, ça rejoint d'ailleurs, cette parole est en lien avec la fin de Matthieu. C'est, au fond, ça... Si vous voulez, on peut rapprocher ce que dit Jésus-Christ dans l'ordre missionnaire à la fin de Matthieu et ce qu'il redit au fond ou dit légèrement autrement dans le verset 8 d'acte 1.
Qu'est-ce que vous pensez des chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains sur la conversion finale d'Israël? Est-ce qu'il n'y a pas un signe?
Alors là, je vous dirais que je suis un homme perplexe sur ce point. Jusqu'à présent, j'ai pensé que l'allusion était faite là à une conversion d'Israël dans un avenir lointain. Je ne dis pas à la fin du monde, parce que quand même, Jésus dit bien que cette conversion d'Israël sera pour l'Église comme une résurrection des morts. Hein. Bon. Donc, il peut y avoir encore longtemps après. Bon, mais je vais vous dire pourquoi je suis perplexe. C'est que là, justement, je veux creuser la chose. Parce que j'ai été interpellé, il y a quelques mois, par ce que dit Van der Waal. Parce que, pour lui, il attribue ce que Paul écrit aux Romains dans les chapitres 9 à 11, il envoie la réalisation aussi avant 70. Bon, alors, quand j'ai été interpellé, parce que ça détruisait tout ce que je pensais jusqu'à présent. Hein? Bon, alors, c'est pour ça, moi, en ce moment, je suis en train de réfléchir à ça. Et alors, ce qui m'a étonné, c'est que Jim Jordan, dont vous connaissez le nom sans doute, qui est un réformé américain, c'est le directeur de Biblical Horizons. Non, ça ne vous dit rien.
Moi je le connais de nom, mais
ah, vous connaissez
j'ai lu une lettre de lui, mais pas très gentille. Mais...
Oui, oh, mais vous savez, il faut faire attention. Il y a des gens qui peuvent avoir fort mauvais caractère. Et je suis assez de votre avis. Moi, ce que j'ai lu, là, c'était dans Calvinisme. Alors, non, bien pas. Mais indépendamment du caractère de Jim Jordan, j'ai été étonné de voir que Jordan, à la suite de sa lecture de Van der Waal, se pose la question. Alors je me dis, ben, au fond, pourquoi est-ce que je n'étudierais pas la chose de nouveau, hein? Parce que je crois quand même qu'il ne faut pas se bloquer. Alors j'ai beau être très avancé en âge, j'essaye de ne pas me bloquer dans mes idées d'il y a 10 ou 50 ans. Oui. Mais jusqu'à présent, moi j'avais toujours vu la conversion d'Israël comme une chose qui devait arriver dans un futur plus ou moins lointain. Mais pas du tout, en tout cas, comme des chapitres se rapportant à des événements déjà passés.
Parce que c'est vrai que les gens, par exemple, comme Shelton, le maintiennent encore dans un avenir lointain, quelque chose de massif, bon, qui peut-être, parce qu'on voit, parce qu'il y a aussi une interprétation qui veut que ça se fait progressivement, sans forcément un mouvement massif à un moment donné, mais ça se fait progressivement, dont Paul serait justement un des exemples, puisque lui, juif, passe devenant...
L'un des bons commentaires, enfin à mon sens c'est un des meilleurs commentaires sur la lettre aux Romains, c'est celui de John Murray. Il a fait deux volumes de commentaires sur les Romains. Et alors je viens de relire, à cause de ça, je viens de relire ce qu'il dit des chapitres 9 à 11. Et lui va tout à fait dans le sens de Chilton. C'est-à-dire, c'est une interprétation assez classique parmi les réformés. À mon sens, c'est par exemple l'interprétation de Riederbos dans la venue du royaume et dans son livre sur Paul. Donc, si vous voulez, Riederbos et John Murray vont, me semble-t-il, dans un sens analogue, et c'est le sens dans lequel, personnellement, j'ai pris les choses jusqu'à présent, et que peut-être je continuerai dans ce sens. Mais je veux simplement réexaminer la question. Tu sais, je vais faire comme les chrétiens de Béret, je vais ouvrir ma Bible et puis je vais essayer de... Vous savez, il y a des domaines comme ça où c'est très difficile d'être...
Affirmatif.
Oui, il faut essayer d'écouter les uns, d'écouter les autres. Et d'ailleurs, il faut toujours s'écouter les uns les autres.
Surtout avec le APAC sur la réintégration. C'est un APAC sur le Nouveau Testament, alors on n'est pas beaucoup éclairé aussi.
L'apocatastasis.
Oui.
Ouais. Non, mais de toute façon, je vous recommande la lecture de ce petit livre. D'ailleurs, c'est un livre inachevé. Vous savez, un petit peu, Pascal avait écrit les pensées en vue d'écrire un grand traité d'apologétique, et j'ai l'impression que sur cette question de l'évangile alliantiel, Van der Waal avait le projet d'un livre assez important. Et d'ailleurs, l'éditeur le dit à un moment donné, je suis tombé sur la page, il dit, l'auteur n'a pas complété cette section. Alors on arrive à un titre, l'alliance avec David, vassal de Yahvé, et il n'y a rien. Mais je ne crois pas que ce soit le seul endroit. Donc c'est un livre inachevé. Alors, il est mort, dont j'ai appris là qu'il était mort en 1980, et je pense que c'était un livre en chantier. C'est un livre en chantier. Alors, mais c'est un livre très excitant. Vous verrez, en le lisant, on est pointé, hein, on est aiguillonné. C'est un livre très intéressant. Et je pense qu'il oblige à reprendre une bonne réflexion. C'est comme il montre une chose intéressante. Souvent, on a dit que c'est à la suite d'un certain nombre de travaux sur les peuples anciens du Moyen-Orient, que l'idée des différents points de l'Alliance aurait commencé à se faire jour. Voyez. Et alors, c'est intéressant parce que Van der Waal montre, par une très longue exégèse, que pas du tout, que dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'il s'agit d'alliance, que ce soit d'alliance entre individus, d'alliance entre peuples, ou de l'alliance entre Dieu et son... Déjà, il y a les points principaux. Alors, Van der Waal, c'est intéressant, au fond, dit, faut pas croire du tout que tout à coup, l'archéologie ou les sciences historiques anciennes du Moyen-Orient ont découvert quelque chose que nous ignorions. Peut-être que nous l'ignorions, mais en fait, l'Ancien Testament nous présentait déjà exactement tout ça. Oui. Si bien que l'idée, il ne le dit pas explicitement, mais je pense que l'idée qu'a Van der Waal, c'est qu'au fond, c'est plutôt les traités d'alliance entre les hommes ou entre les nations qui sont plus ou moins en réplique ou en imitation de l'alliance dans le sens de ce que Dieu nous révèle à son sujet. Vous voyez ? Il inverserait un peu les... Enfin, c'est, moi, je vous dis, c'est un livre que j'ai trouvé très excitant, et tous les gens à qui je l'ai fait lire, parce que je l'ai fait lire quand même à quelques-uns déjà, ils ont tous été comme moi, même si sur des points, ils ne sont pas convaincus, et même en opposition avec ce que dit Van der Waal, ça n'a pas d'importance. Et ils ont trouvé que ça les poussait à la réflexion, ça les poussait à relire certains chapitres ou certains livres de leur Bible, ça les... Alors, ça vaut la peine.
Vous pouvez préciser qui est Van der Waal ?
Ben non, je n'en sais que ce qu'on dit ici. J'ai l'impression que... alors, son grand livre, enfin, la traduction qu'on a fait, que nous avons là en anglais, s'appelle « Search Scriptures ». Hein ?
Ça, c'est assez succinct.
Comment ? Oh, c'est très succinct. C'est un livre plutôt élémentaire.
Son grand livre, c'est son commentaire de Apocalypse. Ah. Et je pense... c'est lui qui aussi pense que l'Apocalypse est avant 70. Ah. Et ça a bouleversé toutes les choses chez nous.
Et est-ce que vous savez quelle était sa nationalité? Parce que là, vous voyez, on nous dit qu'il est mort en 1980 en Afrique du Sud. Oui. Hein. Alors, est-ce que c'est un Africain du Sud d'origine néerlandaise ou bien est-ce que c'est un Néerlandais à qui il est arrivé de mourir en Afrique du Sud? Parce que je ne sais rien.
Il est Néerlandais, mais peut-être il a tellement long travaillé en Afrique du Sud qu'il a une autre nationalité, mais d'origine...
Il est Hollandais.
Oui, oui. Oui.
Mais il était professeur à Campen, il était quoi?
Pas de Campen. Peut-être en Afrique, mais en tout cas...
Parce que c'est vrai qu'on aimerait bien savoir qui est qui, hein, et là-dedans, on ne nous dit rien. On mentionne simplement une autre de ses œuvres, là. On ne nous mentionne pas d'ailleurs le commentaire dont vous parlez. Voilà. Alors, si jamais, ce serait intéressant, si jamais vous pouvez avoir quelques tuyaux, quelques renseignements sur lui, est-ce qu'il a enseigné quelque chose? On ne nous dit même pas. A-t-il été pasteur ou a-t-il été toujours une sorte de théologien plus ou moins allant d'un pays à l'autre? Parce qu'il me semble qu'il a été à un moment donné, il semble qu'il dit qu'il a été en Grande-Bretagne, je ne sais pas. C'est très succinct, on ne nous dit pas grand-chose de lui. Hein.
Monsieur Jean-Marc Berthoud doit le savoir, parce qu'il m'en avait parlé de ce livre, et il m'avait dit qui était le personnage, mais je m'en souviens plus.
Oui, d'ailleurs, ça a été amusant à propos de Jean-Marc Berthoud, donc, qui est le frère de Pierre Berthoud. Un jour, je décroche mon téléphone pour parler à Jean-Marc Berthoud de ce livre. Et la première parole qu'il me dit, ah, vous savez, il y a un livre qu'il faut que vous lisiez. J'ai dit, vous allez me le dire, et moi je vais vous dire un livre aussi qu'il vous lise. Et nous parlions tous les deux, nous venions de finir tous les deux de lire ça. Alors ça m'a amusé parce qu'il avait l'idée de me faire lire ce livre, et moi j'avais l'idée de lui faire lire. Et ça s'est trouvé ensemble dans notre entretien téléphonique. Ah oui.
On peut le commander où ce livre parce que
oh.
Pas
la
mise en édition. Mais à CBD, à GCB, parce que moi pour
ah, Monsieur GCB, West,
où est-ce qu'on peut? Alors expliquez-moi. Moi je voudrais bien savoir. Moi vous savez comment je fais mes commandes. Je m'adresse, je fais une lettre à William Edgar, parce que l'intérêt de William Edgar, c'est qu'il a sur tous les livres qu'il commande, il a, je crois, 30% de réduction. Et ce qui me coûte cher, ce qui me remplace presque les 30%, c'est le port.
Nous, il faut 30% la livraison.
Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est si on me donne un meilleur tuyau que de passer par William Edgar. Moi, William Edgar, d'ailleurs, ne tient pas du tout. C'est par gentillesse et amitié qui me rend le service de m'envoyer les livres que je lui demande. Mais s'il y a un meilleur moyen, et vous me l'indiquez, moi, je serais tout prêt à l'adopter.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne sais pas si c'est pas, peut-être pas au niveau de l'argent, c'est peut-être pas un meilleur moyen. Mais bon, par exemple, le monsieur Wells, une fois, me l'avait demandé. À l'époque, Kerygma, c'était pas, on n'avait pas encore repris vraiment les choses en main. Et c'était par, vous savez, il y a deux catalogues de commandes qu'on peut faire. Et je crois que c'était GCB. Ouais. Mais au niveau du prix, ça revient pratiquement au prix normal, hein, avec le port, etc. Mais moi, je l'avais commandé par ce moyen pour quand c'était pour monsieur Wells. Bon, moi, je l'avais reçu chez moi. Bon, après, je lui avais donné, mais... C'était par ce moyen, mais au niveau du prix, ça revient au prix.
Oui, mais j'y sais bien, ils font déjà un prix de toute façon.
Eux, ils font un prix, mais il y a le port, effectivement.
Oui, mais quand même.
Mais ça revient à peu près au prix normal.
Au prix normal.
Quelques fois, c'est quand même moins cher.
Si on passe par le port compris, ça revient au prix normal.
Oui, en tout cas, c'est rarement plus cher. Moi, pour l'instant, c'est jamais plus cher. Et c'est plutôt même un peu en dessous. Mais comme maintenant, avec Kerygma, on a quand même beaucoup plus de réduction que même ces catalogues. Mais l'avantage, c'est que quand on n'est pas de Kerygma, quand on n'est pas à Kerygma, on peut quand même l'utiliser. C'est un système d'abonnement, on paye carte bleue, et puis on paye une année, je passe 100 francs, et après on paye plus si on achète des livres dans l'année.
Mais au séminaire de Quimpen, je veux dire... On s'entretient de ces questions, je veux dire, soulevées par Van der Waal ou autre.
Non, parce que Van der Waal est un petit peu vu comme l'enfant terrible. Moi, ça, c'est une question intérieure.
Et c'est un enfant terrible. Mais vous savez, il y a toujours des enfants terribles. Il y a un... Je le signalais, j'en parlais à l'un d'entre vous, je ne me souviens plus à qui... vient de paraître en anglais, mais si tu traduis du hollandais, une sorte de vie, plus que la vie. On expose la situation aussi, disons, plus de l'unité de l'Église, à propos de Klaus Schilder. Hein? Et c'est tragique, au fond, cette histoire de Schilder, parce que si j'ai bien compris, vous allez me corriger si je me trompe. Mais il semble, d'après ce livre, que je n'ai pas lu encore, mais j'ai lu un compte-rendu assez détaillé de ce livre, Schilder a été convoqué à un synode des églises réformées vers la fin de la guerre. C'était un synode qui aurait été présidé par Berkauer. Et ce synode aurait condamné par défaut, puisqu'il n'était pas là, Schilder. Or, Schilder ne pouvait pas venir à ce synode parce qu'il était plus ou moins, il vivait d'une manière plus ou moins cachée par rapport aux autorités allemandes. Hein? Si bien que s'il était venu à ce synode, ça veut dire que les Allemands pouvaient l'arrêter à la sortie du synode. C'est vrai ça? Mais c'est bien ça. Comment? Non, mais je veux dire, c'est historique, ça. ça s'est passé comme ça.
Oui, mais c'est une longue histoire, très compliquée.
Ben non, mais Schilder, non, je disais ça pourquoi, parce qu'aux yeux d'un certain nombre, Schilder était un enfant terrible.
Oui.
Hein? Non, je veux dire par là que quelquefois, les enfants terribles ont quelque chose à dire.
C'est très, c'est question intérieure. On dit soit c'est compliqué, soit c'est
question intérieure.
Il faudrait que vous nous fassiez un exposé
sur Schilder. Parce que c'est quand même, et c'est lui qui est à l'origine des églises réformées libérées, non?
Ouais.
Ouais. Hein? C'est à partir de là que les églises libérées ont commencé. Non?
Oui.
C'est un mystère encore.
On désire de formuler un peu autre, mais
à la fin, bon. Est-ce que vous signez une charte avant de partir, quand même, comme quand vous vous engagez sous le sceau du secret? Interdit de dire l'état d'estime.
En tout cas, moi, je n'ai pas lu grand chose de Schilder, mais j'ai quand même lu sa trilogie dont je vous parlais hier. J'ai lu son Christ et la culture. Et j'ai lu aussi, c'est pas une traduction anglaise, c'est un résumé en anglais de son « Qu'est-ce que le ciel ?». Voilà. Mais je n'ai pas lu plus que cela. Mais il m'a beaucoup impressionné, Schilder. En particulier, il a tout à fait renouvelé ma pensée au sujet de la grâce générale.
Oui, bah c'était son... Comment dire, dada, oui.
Son dada.
Oui.
Voilà.
Grâce générale,
c'est une grâce commune. Oui, grâce commune, grâce générale. Il faut un peu penser à ça. Au moment que vous avez parlé de... d'alliance de grâce et des œuvres. Parce que Schilder, il peut très nettement définir ce terme et aussi le terme grâce. Quand peut-on parler de grâce?
C'est ça, oui. Non, mais ça, je suis convaincu que trop souvent, comme je le disais tout à l'heure, on s'achoppe sur les mots que l'autre emploie sans trop voir en quel sens il les emploie. Et l'intéressant dans un entretien, c'est toujours d'essayer de bien comprendre le sens que votre interlocuteur donne aux mots qu'il emploie. Parce qu'on s'aperçoit quelquefois qu'on n'emploie pas les mêmes mots, mais qu'on dit la même chose, qu'on est d'accord sur la même chose. Et inversement, on peut employer les mêmes mots et puis en réalité ne pas être d'accord.
Ça arrive souvent dans des tribunes publiques.
Ouais.
Si on invite quelques personnages de discuter de ces, ils sont toujours d'accord. C'est frappant.
Surtout s'il y a la télé.
Ouais. Ouais, bon, c'est dans des débats.
Alors je vous dis à cet après-midi.